RCF. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons un habitué de RCF dans l'émission Le Berry se raconte. J'ai nommé Jean-Pierre André, membre de la Société d'archéologie et d'histoire du Berry, secrétaire de l'Association des anciens du 95e Berry et 85e Berry. Mon cher Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, j'ai souhaité vous inviter pour deux raisons. La première, la joie de vous recevoir. La seconde, écoutez, nous avons beaucoup entendu parler de l'année 14 et de son centenaire, et je trouve peu de cette année 1915, qui reste une année de guerre terrible. Et justement pour notre régiment local, le 95e régiment d'infanterie, cher, comme nous savons, à votre cœur et aussi à mon cœur. Ma première question, Jean-Pierre, sera un simple rappel des quelques mois de guerre de l'année 14 pour notre 95e régiment d'infanterie. Jean-Pierre.
En août 14, le 95e régiment d'infanterie est appelé à entrer en guerre très tôt. Il participe à la campagne qui a conduit nos troupes jusqu'à la conquête de Sarrebourg, qui se trouvait dans l'Alsace annexée, puis est tombé sur des positions extrêmement renforcées, avec de l'artillerie lourde, des grandes concentrations de troupes au-delà de Sarrebourg, et a été obligé de reculer avec tout le 8e corps d'armée jusqu'à sa position de départ. Bilan de l'opération, en deux semaines de combat, 1100 environ soldats hors de combat, si je peux dire, morts, blessés, disparus, prisonniers. En septembre 14, le 95e Berry est appelé à se rendre d'urgence au sud de Verdun, dans la région de Saint-Mihiel, pour bloquer une poussée allemande qui avait pour objectif d'encercler Verdun et de faire tomber ce verrou qui empêchait l'avance des Allemands en direction du centre et de Paris. Le régiment est arrivé sur des positions absolument pas préparées. C'était en quelque sorte une bataille de rencontre. Cette bataille s'est positionnée dans la forêt d'Apremont, à l'est-sud-est de Saint-Mihiel. Et là, ça a été vraiment une horreur. Les soldats sont arrivés dans cette zone et se sont enterrés. On commençait par faire des trous individuels sous un bombardement, sous l'attaque incessante des Allemands, menant eux-mêmes des contre-attaques extrêmement meurtrières dans des conditions très très dures. Les trous individuels étant petit à petit reliés les uns aux autres, finissant par créer des tranchées assez précaires, des abris. Les attaques étaient d'une cruauté, d'une férocité vraiment terrible. Nos régiments, parce qu'on parle du 95e Berry, il faut peut-être pas oublier son frère, le 85e Berry.
Justement.
Ce sont deux régiments qui ont été inséparables pendant toute cette guerre de 14-18. Ils ont subi exactement les mêmes souffrances, les mêmes combats, à la fin les mêmes gloires. Donc ce qu'a souffert le 95e Berry, le 85e l'a souffert aussi. Et c'est pour ça que finalement on a une amicale des anciens qui réunissent ces deux unités.
Alors justement, alors nous y sommes. L'année 1915, un hiver particulièrement rigoureux. Où se trouve notre 95e régiment d'infanterie en ce début de janvier 1915?
Alors en janvier 1915, le 95e Berry se trouve dans le Bois Brûlé. Le Bois Brûlé est une partie de la forêt d'Ailly qui se trouve près d'un petit village qui s'appelle Marbotte. Il est dans des tranchées dont j'expliquais tout à l'heure qu'ils avaient été établis en catastrophe, si je peux dire, et d'une manière très précaire. Les Allemands ayant fait la même chose de leur côté, et la forêt, en janvier 1915, commence à ne plus avoir beaucoup d'arbres debout. À force des bombardements, la forêt a été rasée, le sol est retourné. Les hommes vivent une vie terrible. À certains endroits, les tranchées françaises et allemandes sont à distance de 20-25 mètres, si bien qu'on s'entend parler d'une tranchée à l'autre. Ceci pose par exemple des problèmes de ravitaillement terribles pour alimenter les soldats qui sont en première ligne. Les ravitaillements ne peuvent se faire que la nuit, par des porteurs de gamelles, de bidons, et bien souvent la soupe se retrouve renversée et souvent aussi, hélas, les porteurs blessés ou tués avant qu'ils aient pu arriver avec leurs gamelles en première ligne.
Si j'ai bien compris, le 95e RI, début janvier 1915, ne bouge pas. Il est à la position Forêt-Apremont, Bois Brûlé. Un signal que Bois Brûlé, Apremont sont souvent des noms qu'on retrouve dans des journaux de l'époque de la guerre. On ne précise pas, mais ensuite c'est Apremont ou Bois Brûlé. Alors justement, nous sommes dans la guerre de position, dite de tranchée, ce qui ne veut pas dire sans offensive. Notre 95e Herry, alors participe-t-il aux offensives, là je vous pose une question bien précise, de Joffre en Artois et Champagne? Est-ce que vous pourriez justement me rappeler si les offensives de Joffre ont été des succès en Artois et en Champagne?
Oui, bon, ce nous sera un peu du 95e Herry parce que lui il n'a pas participé à ces offensives. D'accord. Il est resté pendant toute l'année 1915 dans la région de Saint-Mihiel, livrant effectivement des offensives contre les tranchées allemandes, essayant de percer avec son corps d'armée dans des combats d'une férocité incroyable, subissant des attaques allemandes qui, eux, essayaient de percer aussi. Enfin, c'était, et tout ça dans un climat, une ambiance de boue, de terre, de faim, de pourriture, enfin, c'était la guerre de tranchées dans toute son horreur.
Là aussi, le 95e Herry donc est resté sur ses positions. Il n'a pas été, remplacé. Il n'y a pas eu de relève directement.
Ah si, si, bien sûr. Il est resté dans la région, mais en première ligne, les unités tournaient.
D'accord.
Les unités restaient rarement plus d'une semaine et demie, deux semaines maximum en première ligne. C'était tellement dur qu'on ne pouvait pas rester si longtemps. Dans l'hiver 14-15, on raconte que, enfin les textes qu'on trouve racontent que les soldats, parfois, dans la boue, s'enlisaient jusqu'à mi-jambe, dans le froid, dans l'humidité. Il faut bien voir que la vie de tranchée, pendant 8 jours, les soldats étaient en première ligne. 8-10 jours étaient en première ligne. Ça veut dire que pendant 8-10 jours, ils ne pouvaient guère se déplacer de plus de quelques mètres à droite, quelques mètres à gauche, jour et nuit. Ils se relayaient la nuit par moitié. La moitié dormait, l'autre moitié guettait. Et quand on dit dormir, en fait, ça consistait à s'asseoir dans le fond de la tranchée, sur son sac, parfois, pour éviter un peu au maximum l'humidité, et d'attendre que le camarade qui était debout lui tape sur l'épaule pour qu'il vienne le remplacer debout en première ligne. On estime parfois que le soldat se déplaçait de pas plus de 15 mètres pendant une semaine. C'était vraiment... Alors, excusez-moi, mais ça pose des petits besoins physiologiques.
Oui.
Hein, qui sont extrêmement humiliants à résoudre. Il y avait deux solutions. Soit on sautait par-dessus le bord de la tranchée, on courait dans le taillis derrière au risque de ramasser une balle, ce qui n'était pas du tout improbable. Ou alors on utilisait une casserole, une gamelle, et on lançait ça par-dessus bord.
Alors justement, si nous devions faire un rapide bilan de l'année 15 pour notre 95e régiment d'infanterie, que pourriez-vous nous dire? Et j'aimerais, vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais que vous expliquiez un peu plus longuement la dureté de la vie de ces personnes.
Ah oui.
Est-ce qu'ils avaient des... Alors, une autre question, est-ce qu'ils avaient des permissions ou est-ce qu'ils sont restés... Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer là-dessus?
La vie est extrêmement dure pour le soldat. D'abord, ils n'étaient pas équipés pour ce genre de guerre, ni dans leur équipement personnel, ni dans l'armement. L'armée française avait été dimensionnée pour une guerre de mouvement. Et là, ils se sont retrouvés enterrés dans des trous, dans des tranchées boueuses. Et il a fallu qu'ils fassent avec l'équipement qu'ils avaient. Donc, ils ont eu très froid. Une bonne partie des dames de l'arrière tricotaient pour leur envoyer des vêtements chauds autant qu'ils le pouvaient. Mais ça ne suffisait pas, ce n'était pas adapté. Ils étaient mal nourris. Ils n'avaient pas de boisson, enfin d'eau de bonne qualité, et ni en quantité ni en qualité. Ils avaient froid. Là, les pieds, ils avaient les pieds gelés bien souvent. Et finalement, la maladie a fait autant de victimes que
les autres. Alors la maladie, on en parle très peu.
Oui, la maladie a fait autant de victimes que les obus et les balles. On entend par maladie les blessures, les amputations des pieds dues au gel, les maladies pulmonaires, etc., etc.
À la fin de l'année 1915, le 95e RI, il a perdu autant d'hommes qu'en 14?
Non, la grande tuerie pendant toute la guerre, ça a été août 14. Août 14, indubitablement. Août 14, la guerre de mouvement en rase campagne, face aux mitrailleuses et à l'artillerie lourde allemande, ça a été une hécatombe épouvantable. Là, la vie était extrêmement dure, meurtrière, la guerre était meurtrière, mais les taux de victimes n'a pas été identique à celui de d'août 14. Des statistiques qui ont été enregistrées par la mairie de Bourges concernant les morts, les soldats morts pour la France originaires de Bourges montrent que je crois que c'est un quart ou la moitié des morts ont été enregistrés entre août 14 et fin 1915. Donc en 17 mois de guerre, sur les 54 mois, on a enregistré environ la moitié des morts à Bourges.
Merci Jean-Pierre de nous avoir rappelé les pages de l'histoire de notre 95e régiment d'infanterie, régiment du Cher, pendant cette année 1915. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à l'écoute de la vie militaire dans le Cher et en Berry, animée par Agora Défense.